Parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Didier Méric au mas de Gascuel à Saint-Isère, qui est éleveur de brebis laitières.
Moi, c'est Didier Méric. Je me suis installé sur la ferme familiale en 1990. Ça a été mon choix. C'était plus un choix sentimental que par passion, parce que je n'avais pas du tout la passion de la ferme, ni de des cultures, ni des animaux. C'était uniquement sentimental, mais c'est moi qui ai choisi. Je ne me suis pas posé la question, parce que j'avais 14 ans, et à l'école jusqu'en 3e. En 3e, je suis parti après, j'ai fait un BEP, et à 17 ans, j'ai été sur la ferme comme aide familiale. En 1990, je me suis installé. Parce que bon, la ferme avait besoin de moderniser, on avait besoin d'une bergerie. Alors mon père m'a cédé avant d'être à la retraite, à 55 ans, il m'a laissé m'installer pour que je puisse investir, quoi, faire des emprunts et voilà, et moderniser un petit peu. On est sur la commune de Saint-Isère, dans une région de vallée, de Rougier, bordure de Dourdou.
Qui permet d'irriguer.
Oui, c'est dans la région dans le rayon de Roquefort. Quand Franck est arrivé, on avait 250 brebis à la traite. Hein. Bon, maintenant, on a 400. Voilà, on a augmenté, pas pour être plus important, mais c'était une obligation pour dégager un deuxième revenu.
Pour l'installation de deuxième femme.
Pour l'installation de Franck. Oui. Et Franck, ce qu'il voulait, enfin, son projet, c'était de s'installer lui. Et puis de travailler avec son frère, parce que voilà, c'est quelque chose qu'il ne veut pas, il ne veut pas travailler tout seul. Alors, comme Théo était intéressé, son frère, il a essayé de progresser au maximum, d'avoir un troupeau assez important pour dégager un troisième revenu. On a cherché à s'agrandir, ça a été assez difficile, hein, parce que bon, c'est une région où la pression foncière est forte, parce qu'il y a quand même, c'est une région assez dynamique, il y a pas mal de jeunes. Bon, d'un côté, c'est intéressant, mais bon, après, quand on veut installer un de nos enfants, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, bon, aujourd'hui, on vit beaucoup d'aides directes. Alors, les aides de la PAC, c'est des aides qui sont directement liées au terrain. Et on a besoin de ces aides directes pour pouvoir dégager un revenu. Revenu correct. On ne peut pas vivre aujourd'hui du revenu de la production. Il nous faut absolument ces aides. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les aides de la PAC comptent presque plus que la production. Voilà, les aides directes comptent énormément.
D'accord. Et je comprends pas, parce que quand on va chez le boucher, l'agneau est cher. Pourquoi vous vous en sortez pas?
Ben parce que nos prix de vente sont bas. On ne peut pas dire que ça ne sorte pas, mais on ne dégage pas des revenus énormes parce qu'on a beaucoup de charges.
S'il n'y a pas d'aide, vous ne vous en sortez pas?
Non. Disons que si on n'avait pas ces aides directes, le résultat de l'exploitation serait négatif.
Et ça fait quoi pour un agriculteur de devoir vivre avec des aides? Vous qui êtes autonome et qui gérez, vu de l'extérieur, quand même beaucoup...
C'est un système qui nous paraît bizarre, mais... franchement, ce que j'en pense, c'est que ces aides directes, c'est aussi une enveloppe qu'on perçoit en fin d'année qui sécurise quand même le revenu. On sait que ces aides, quoi qu'il se passe sur l'exploitation, si ça marche, si ça marche pas, on va percevoir ces aides. Tandis que si vraiment on vivait que de nos ventes de lait et d'agneau, il faudrait vraiment faire très attention de ne pas se tromper, quoi, de pas se tromper, d'avoir toujours de bonnes années. Parce qu'une mauvaise année sans aide de la PAC, ça pourrait être catastrophique. C'est des aides qui sont à l'hectare.
Et alors, en dehors des aides, donc, vous avez des brebis. C'est quoi comme brebis?
C'est des brebis Lacone.
D'accord.
Enfin, ici, pour produire du lait de Roquefort, on est obligé d'avoir des brebis Lacon. C'est la condition pour produire du Roquefort. Alors, le lait est collecté toutes les 24 heures par la traite mécanique. Maintenant, c'est deux traites par jour au 15 octobre jusqu'à fin de mai. Pour avoir du lait, il faut un agneau. Donc, on va mettre les brebis au bélier ou les inséminer. Puis, voilà, il faut 5 mois de gestation. Après 5 mois, il y a les mises bas. On va garder les agneaux sous la mer pendant un mois, les vendre environ à 14 kilos. Puis, quand les agneaux sont vendus, c'est le début de la traite. Pour nous, ça commence le 15 octobre jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, les brebis hérissent.
Et tout le monde commence à cette date ?
À une époque, c'était plus saisonnier. Enfin, c'était vraiment tout le monde commençait pratiquement en même temps et étaler la production. C'est-à-dire que chaque éleveur peut commencer un peu la date qu'il a choisie. Les fermiers ont toujours eu du travail. À partir du mois de mai, même avant la fin de la traite, il y a du travail. Dès que les beaux jours arrivent, et, bon, il y a des semis à faire, des semis de luzerne, des semis de maïs. Et en même temps, les foins qui arrivent. Soit en silage, soit foin sec, et voilà, et ça suit la moisson après en juillet. Et mois d'août, une période un peu plus creuse, mois d'août et début septembre, mais après de nouveau les semis de raies grappes et les semences de céréales après à l'automne, d'octobre à décembre.
Tu peux nous expliquer ce qu'est l'ensilage ?
L'ensilage, voilà, c'est une technique de récolte. On récolte du riz gras ou du maïs en ensilage. On récolte le foin humide, qui est mis en tas, tassé, ce qui nous permet de faire beaucoup de stock. Quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais chez nous, non, chez nous, c'est tout nouveau. Voilà. Nous, on est passé d'un système plutôt extensif à un système plutôt intensif maintenant, pour pouvoir justement dégager deux revenus de plus. On n'a pas eu trop le choix.
Le maïs, ça nécessite beaucoup d'eau. On a eu une grosse sécheresse cet été.
Oui.
Comment tu vois les choses ? En quoi l'évolution climatique peut avoir un impact sur ton activité ?
Oui, c'est une culture qui demande vraiment beaucoup d'eau. Et c'est vrai que ça fait 2 ans où on a vraiment besoin d'irriguer beaucoup. Quoi. Alors, à dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'irriguer autant, je ne sais pas. Parce qu'à l'hectare, ça produit, le maïs irrigué produit vraiment beaucoup de stock. Alors...
Est-ce que vous avez une alternative si par exemple il n'y a plus assez d'eau pour irriguer autant le maïs, est-ce qu'il y a une autre alternative pour pouvoir nourrir correctement les brebis?
Non. Après nous, si vraiment on arrête l'ensilage de maïs, on n'a plus assez de stock. Donc ça veut dire qu'il faudrait encore plus de surface.
Pour faire...
Ou diminuer le troupeau.
Et alors,
ce qui se passe, c'est que si on diminue le troupeau, il n'y a plus assez de revenus, donc ça va poser un problème.
Le cercle vicieux,
oui.
Ouais.
Est-ce que c'est source d'inquiétude pour un agriculteur aujourd'hui, la gestion ?
Oui, parce que ça devient compliqué. Parce que bon, moi, quand je me suis installé, c'était quelque chose d'assez simple. Bon, c'était une vie où il n'y avait pas beaucoup d'investissements, ou moins. Quelque chose qu'on pouvait très bien gérer. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, voilà, mais bon... On savait quand même un peu compter, c'était assez facile hein, de gérer nos comptes, tout ça. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué, parce qu'il faut être au courant de beaucoup de choses. Voilà, il faut plus être entrepreneur aujourd'hui que paysan. Quoi. Il faut vraiment se tenir au courant de tout. On gagne des fois plus d'argent en prenant le crayon, en faisant des calculs, qu'en allant dans les champs ou à la bergerie. Et ça, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce que le métier qu'on a choisi, c'est plus celui qu'on fait aujourd'hui. Les fermes sont devenues des entreprises, et encore chez nous, c'est des petites fermes qui ont grossi. Mais aujourd'hui, on voit des fermes-usines s'installer, même autour de chez nous. Et ça, voilà, on n'est pas prêt à ça, on n'est pas capable de ça. On se demande comment... La génération qui arrive va pouvoir gérer ça. Quoi. Voilà, on se demande s'ils seront capables d'être des entrepreneurs. Franck, notre fils aîné, est vraiment passionné par les cultures. Théo, il est aussi passionné un peu par les cultures, mais pas mal par le troupeau. Alors oui, je suis content d'avoir fait ce métier pour pouvoir le transmettre, parce que si je n'avais pas fait ce métier comme je l'ai fait, bon, il ne pourrait pas reprendre aujourd'hui, même si ça a été compliqué.
Comment vous êtes soutenu dans ces démarches ? Tu dis que c'est quand même aujourd'hui compliqué peut-être d'être entrepreneur, de se tenir au courant de tout. Est-ce qu'il y a des syndicats, des organisations entre vous ? Est-ce que vous êtes solidaire ?
Oui, de toute façon, on est aidé, on est soutenu, il y a les chambres d'agriculture, il y a les syndicats, il y a plein de... C'est que des conseils, après, voilà, si on se trompe, eux, ils ne sont pas responsables de nos erreurs.
Est-ce que vous êtes sollicité par des vendeurs d'engins, des vendeurs de crédit, pour pouvoir toujours grossir plus? Et est-ce que ça arrive, ça, pour pouvoir être un peu attiré toujours à plus gros et parfois même quitte à pouvoir s'endetter ou se mettre en difficulté?
Voilà, c'est un cercle vicieux parce que bon, pour travailler, on a besoin de techniques, de matériel et tout ça est extrêmement cher aujourd'hui. Voilà, si on peut acheter ce qui se voit le plus dans une ferme, c'est un tracteur. C'est, aujourd'hui, c'est hors de prix. Mais on n'a pas le choix. Je veux dire, si on veut travailler en de bonnes conditions, il faut investir, il faut acheter du matériel qui coûte cher. Et donc avoir la production en face pour pouvoir payer les emprunts, dégager un revenu. Et voilà, et toutes ces dépenses de matériel, de technique, d'engrais, de carburant, tout ça a tendance à augmenter aujourd'hui. Et voilà, et c'est le cercle vicieux. Alors il faut toujours produire plus. Et moi, c'est ce côté-là qui ne me plaît pas dans l'agriculture. Hein. C'est comme c'est devenu, quoi.
Mais il me semble qu'il y a certaines autres modalités de faire de l'agriculture aujourd'hui. Certains choisissent de plus être gros, de moins dépendre des machines, de moins dépendre des engrais et peut-être de produire plus en local. Est-ce que c'est des choses que vous avez essayées, qui vous ont attiré, qui pourraient être une autre piste pour sortir un peu de l'engrenage de toujours plus?
Oui, ça aurait été peut-être plus mon choix que ceux des enfants. Parce que les enfants, Franck, lui, ce qui lui plaît, c'est les cultures. Donc, pour faire des cultures, il faut de la surface. Il faut du matériel. Théo, ce qui lui plaît, c'est la brebis, c'est produire du lait pour le roquefort. Mais là, encore une fois, pour dégager des revenus, il faut faire du volume, il faut faire de la quantité. On peut pas diminuer le troupeau, produire moins, avoir du plus petit matériel. Ça suffirait pas pour dégager un revenu suffisant, quoi. Et ils auraient pu choisir de la vente directe, voilà, ce qui se fait aujourd'hui un peu plus. Bon, c'est quelque chose qui leur plaît pas et c'est pas leur choix.
Tu donnes le lait à roquefort? À société,
ouais.
Est-ce qu'ils sont de plus en plus exigeants pour la qualité? Est-ce que tu peux faire autant de lait que tu veux? Est-ce qu'ils te le payent bien?
Quand j'étais installé, c'était difficile de produire plus, parce qu'il y avait des quotas, encore à l'époque, même un peu jusqu'à avant l'installation de Franck, on était limité par la production. C'était pas possible d'évoluer. Aujourd'hui, ça a changé, parce qu'il y a des producteurs qui ont arrêté. Ils sont exigeants vraiment sur la qualité.
Et le prix?
Le prix, il a évolué un petit peu. Très peu, pas assez par rapport aux frais qui peut y avoir sur une exploitation aujourd'hui. Mais bon, on fait avec. Mais le prix aussi est lié à la qualité du lait. On a une grille de qualité qui est vraiment très sévère. On n'a pas droit à l'erreur, quoi. Et c'est difficile de rentrer dans cette grille, quoi.
Moi, j'ai une question de soignant. Je rencontre un certain nombre d'agriculteurs en difficulté, aux urgences à Rodez, en intervention extérieure. Et quand j'entends ce que tu dis de la pression de l'industrie, plus de qualité, les emprunts, parce qu'il faut du matériel, etc. Comment ça se gère, ce stress de gérer une entreprise ou quand même qui est un peu limite, puisqu'on a quand même besoin des aides pour y arriver, pour avoir une sécurité? Comment se gère le stress de manière individuelle au sein d'une entreprise familiale ou au sein d'une vallée? Est-ce qu'on parle de son stress? Est-ce qu'on est soutenu pour ça?
Chacun le ressent à sa façon. Entre agriculteurs, on ne parle pas beaucoup. Il y a vraiment un manque de communication. On a l'impression que ça change avec la génération qui vient. Et on a l'impression que les jeunes parlent beaucoup plus entre eux, de leurs problèmes. Oui, nous, on le voit avec nos enfants. Dès qu'il y a un problème, ils communiquent avec les copains qui font le même métier, qui en ont beaucoup plus au courant et ils sont beaucoup plus francs entre eux que ce qu'on l'a été, nous, à notre génération. Moi, je dis que ça vient de l'éducation, qu'on a reçu des anciens, voilà, où les anciens ne parlaient pas beaucoup. Ouais, avoir des difficultés, enfin, être stressé ou tout ça, on a l'impression que notre génération, c'était vraiment tabou, quoi. C'est une faiblesse, c'était... Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit très bien que tout le monde est stressé dans tous les métiers. Voilà, il y a une pression, on se met la pression les uns les autres. Voilà, tout le monde a le bâton tendu, quoi, pour... Voilà, on est prêt plus à se sanctionner les uns les autres, hein, sur la place qu'on a, plutôt que de céder et de voir ce qui ne va pas. Nous, on n'a pas pris vraiment beaucoup de temps, comme certains, pour nous, pour nos distractions.
Est-ce que vous en avez pris suffisamment pour vous, voilà, à votre goût ?
À mon goût, ça va. Pour Isabelle, mon épouse, bon, c'est différent. Voilà. Elle aurait aimé peut-être profiter davantage, voilà, être moins sur la ferme tout le temps, voilà, prendre quelques week-ends, au moins une semaine de vacances par an, ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est entièrement ma faute, parce que voilà, je suis quelqu'un d'entier. Alors, quand ça marche, ça va très bien, je suis content, de bonne humeur. Mais si ça marche pas, je sais pas faire la part des choses. Je sais pas séparer le métier des loisirs, des copains.
Voilà, tu es trop passionné par ton travail.
Passionné, je sais pas si on peut dire que c'est de la passion. C'est plutôt de l'inquiétude, hein, voilà, la peur du lendemain, le stress. Mais pourtant, tout va bien. Tout se passe normalement bien, mais on est stressé quand même. Voilà, c'est la peur du lendemain.
Tu peux nous dire quelque chose sur la transmission au sein de la famille ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu t'es senti libre quand tu as reçu ? Est-ce que tes enfants se sentent libres ?
Que mes enfants reprennent, c'est très bien. Voilà, parce qu'ils sont motivés. Donc moi, ça me permet de prendre un peu de recul, de les laisser faire, de les laisser diriger. Quand ils ont parlé de reprendre la ferme, moi j'aurais dit, c'est vous qui décidez, c'est vous les patrons, c'est vous qui décidez. Moi je suis là juste pour dire mon mot si ça va pas, quoi.
Juste pour conseiller, mais pas pour commander.
Voilà, non, je veux plus être chef, c'est ce que je leur ai dit.
Est-ce que ton père a fait pareil avec toi ?
Oui, il a fait la même chose. J'ai de l'admiration pour l'architecture. Les architectes, ceux qui bâtissent des grands bâtiments, quelque chose qui me plaît. Ouais. J'aurais aimé travailler là-dedans. Ouais.
Can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design.
Donc là, c'est un énorme tas de fumier. Tu le mets dans les champs après ?
Oui.
J'imagine.
Dans les champs, on ne met pas du tout d'engrais.
D'accord.
À part de l'azote au printemps. Mais comme engrais de fond, on ne met que du fumier.
D'accord.
Voilà, ça fait, et puis, bon, c'est pas bio parce que voilà, on utilise quelques produits de traitement sur les maïs, quelques désherbants.
Oui, ou sur les bêtes.
Il y a des produits de traitement sur les brebis aussi.
Mm. Donc ça se retrouve dans le fumier.
Voilà, oui. C'est la partie que j'ai construite en installant en 1990. C'est parti, c'est Franck qui a fait l'agrandissement là en 2018. Pour l'instant, on va rester sage, on ne va pas investir beaucoup plus. Peut-être quelques petits investissements, parce qu'il y a toujours du renouvellement de matériel, tout ça. Puis ce n'est pas leur but. Eux, leur but, c'est qu'ils puissent vivre de ce métier, mais ils n'ont pas la folie des grandes hommes. Alors ça, c'est le silo de silage d'herbe.
Mais pourquoi mettre des murs de béton alors que là-bas tu l'as fait directement en tube ?
Disons que c'est plus pratique comme ça pour reprendre, parce qu'on est sur une dalle à plat. Tandis que là, une fois que le silo est fait, ça coûte juste le prix d'une vache au-dessus. On fait récolter à un entrepreneur,
d'accord, une
entreprise qui vient, qui récolte. Et bien,
simplement.
Voilà, nous, on le verse dans le silo, le tasse. Ouais, ça a une fermentation, ouais. Ça sent le aigre.
Et les brebis aiment ça ?
Oui, ouais, ouais, ça a leur folle de ça, oui.
Et alors comment ça se vérifie la qualité du lait ?
On a 4 contrôles par mois. Et là où ils contrôlent matière grasse, matière protéique, mais aussi la bactériologie. On est payé en fonction
de la qualité et on est pénalisé voilà, si le lait ne correspond pas à la norme que je vous impose. On peut rentrer par là si vous voulez.
Waouh.
Ici c'est l'insémination, alors 13 jours avant la date d'IA, on pose des éponges sur la totalité de celles qu'on veut inséminer. 15 jours après, on fait le retrait. L'éponge, ça sert à bloquer le cycle. À partir du moment où on enlève l'éponge, le cycle redémarre. 48 et 51 heures après, il y a un moyen technicien pour inséminer. Une semaine après, on introduit les veilliers dans le lot qui a été inséminé pour attraper tout ce qui a pris à l'insémination. 15 jours après l'insémination, celles qui n'ont pas pris de l'insémination reviennent en chaleur et sont saillies par les béliers.
D'accord. Donc les mises à bas ont lieu à peu près tout au même moment ?
Oui, chez nous c'est début septembre. Le vétérinaire ne se déplace pas. On charge la brebis qui a un problème et on est chez le vétérinaire. C'est des problèmes de mise à bas. Soit une brebis qui ne dilate pas ou des agneaux qui sont trop gros. Normalement, l'insémination marche entre 65 et 75%. Il ne reste que 25% des brebis à saillir. C'est à peu près ça.
Et c'est quoi ces trucs qui sont suspendus au milieu là ? Qu'est-ce que c'est ?
Des pierres de sel. Il faut que... C'est du sel en permanence, on le met en complément. Quoi. Okay. On met du sel, des minéraux, des oligo-éléments, des fois dans les rations, au moment où on voit le sol le plus fragile, c'est-à-dire en fin de gestation quotidienne. On distribue voilà, une fois par jour, le matin. C'est une ration qui a été calculée par un technicien qui intervient régulièrement chez nous. C'est un système de tapis. Alors la première fois qu'on donne, on repère les mètres, on sait qu'à 15 mètres, il y a le second lot. Là, elle passe en salle de traite.
Et tu peux en passer combien en salle de traite ?
Mais là, pour le moment, il en passe 380. Quand tous seront à la traite, il y en aura 400. En ce moment, 380 brebis, on met entre 1h15 et 1h30, matin et soir.
Ils sont des camps, ceux-là ?
Ceux-là, il y a 15 jours, à peu près, ouais.
Ça va de septembre jusqu'à maintenant ?
Oui.
D'accord.
Ouais. Et là, c'est la fin. Ouais.
Et donc, quand c'est la période des mises à bas, vous êtes tout le temps sur le guet,
ouais.
Jour et nuit ?
24 heures sur 24, oui. Ah, ouais. On se relaie, hein. C'est pas toujours la même personne. Qui...
Mais ça veut dire, tu restes, il y a tout le temps là, quelqu'un là ?
Oui, il y a toujours...
Dans le bâtiment.
À partir du 1er septembre, c'est... 24 heures sur 24, il y a au moins une personne dans le bâtiment.
Ah oui, okay.
On a une dizaine de jours. Ouais.
D'accord.
C'est toujours là pour surveiller. Des fois, ça se passe pas bien. Alors bon, on intervient, on évite que l'agneau meure à la naissance. Si on est là, on peut éviter ça. Dès qu'une brebis met bas, on l'isole. Parce que sinon, voilà, ce serait comme toute tendance à mettre bas les unes derrière les autres. On ne pourrait pas laisser tout mélanger parce qu'elle perdrait les agneaux. Alors il faut être là pour les séparer, pour les mettre individuellement dans des casiers pour qu'elles retrouvent leurs agneaux. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être là. Ouais. Mais dans 80% des cas, l'annulage se passe normalement bien. Quoi. Puis bon, voilà, pour 4 ou 5 césariennes qu'on va avoir sur l'année, peut-être une année où il y en a beaucoup.
Combien d'agneaux as-tu par brebis ?
Aux alentours de 2, beaucoup d'agneaux. On a fait beaucoup de sélections. Autrefois, une brebis, ça faisait un agneau 2, un agneau et demi. Maintenant, ouais, ça... On approche 2 agneaux par brebis. Quoi.
Alors les agneaux que tu gardes pas, tu les vends donc au bout de quelques semaines, tu nous disais tout à l'heure.
Oui.
Tu les vends comment ? On vient te les chercher ici, on te les pèse, comment ça fonctionne ?
Nous on adhère à une coopérative en Centrafrique. T'as les agneaux un mois, voilà, ils viennent les voir, ils viennent regarder si les agneaux sont en mode santé. On a décidé de les vendre, qu'ils font le poids et qu'ils ont l'âge. Et ils viennent les chercher et ils les placent dans des bergeries d'engraissement. Pas au-dessous de 14 kilos. Voilà.
Par exemple, un agneau, ça coûte combien quand tu vois un agneau en un mois ? Combien tu tires
Un agneau, alors ça dépend des périodes, voilà, et des années aussi, parce qu'il y a... On a eu une année, l'année dernière, où c'était, les prix étaient corrects. Cette année, ça a été un peu moins bien payé. Cette année, on a vendu les agneaux. Les premiers sont partis à 5 euros. Et après, ça a été un peu moins. Les prix ont baissé en fin d'année. Et là, ils ont remonté un peu.
Alors, nous quittons la bergerie vers la salle de traite.
Ouais.
Donc, une dizaine de mètres après. Donc, ça, c'est quoi, Christian, cette salle ?
Je sais pas. Voilà, ça c'est la salle de traite.
Voilà.
Ça devait être l'ancienne bergerie.
Ouais, c'est l'ancienne bergerie qu'on se sert de salle, enfin de terre d'attente. Bon, on sert les brebis pour traire ici.
Et comment tu les fais rentrer pour éviter qu'elles rentrent toutes d'un coup là ?
On le rentre assez vite, mais bon, derrière l'autre quand même, on ouvre les portes.
Et après, entre les deux
fois,
là ? Il y a un passage là-bas ?
Ici, c'est plein là quand elles attendent pour être passer à la traite. On ouvre cette porte.
Pour ça, c'est le sas d'attente.
Ouais.
Après, elles repartent ici.
Oui, et elles repartent dans ce couloir-là et elles repartent là, dans l'air. Là.
Et tu les fais rentrer avec du grain à l'intérieur ? Pourquoi elles acceptent de se faire
Pour rentrer sur la traite, oui.
Il y a un peu de grain là-bas.
De l'orge et du taureau.
Et elles se disputent ou elles respectent leur tour ?
Non, c'est assez calme. La salle de traite, les unes derrière les autres.
Est-ce que vous avez mis la musique dans votre salle de traite ? J'ai entendu dire que certains mettaient la musique.
Ouais. Non, pas encore. On n'a pas essayé la musique.
Et alors, ça donne combien de litres une brebis ?
Alors,
de lait ?
En début, bon, ça varie d'un élevage à l'autre. Voilà, chez nous, ça entre. En début de traite, entre 2 litres 8, entre 2 litres et demi, 2 litres 8. Voilà. 2 litres 8, c'est vraiment le maximum.
C'est par jour, ça, ou par traite ?
C'est par jour.
Par jour.
Par jour, ouais. Ouais. En début de traite, pour finir à 700 grammes ou 300 grammes au mois de mai, quand on arrête de traire.
Et la trayeuse s'arrête automatiquement quand le pied est vide ?
Oui.
D'accord.
Il y a une minuterie. Qui est réglé là pour l'instant à 2 minutes et demie.
Mais si je produis un peu moins de lait, il va me tirer sur le pied pendant 2 minutes et demie alors que j'ai plus de lait à 2 minutes.
Non, parce qu'en fin de campagne, quand il y a beaucoup moins de lait, on diminue le temps de traite. On passe à 2 minutes, puis après un peu moins de 2 minutes pour éviter.
Là, il y a zéro mouche dans ta bergerie, c'est normal ?
Aujourd'hui, oui. Mais les mouches, c'est. Ouais, c'est pas un problème, non, parce que ça pose. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème qui soit tellement lié aux mouches. Hein. Mais on ne fait pas de traitement. On n'a pas de. On ne traite pas contre les mouches.
Et elles sortent un peu dehors, ces brebis ?
Oui, à partir du mois de mars. Et chez nous, c'est à partir du 15 de mars. Jusqu'au mois de juin, tant qu'il y a de l'herbe dehors, de l'herbe verte. Puis après, bon, comme ces années-ci, là, les étés sont longs. Les périodes de sécheresse commencent tôt. Cette année, ça a commencé au mois d'avril jusqu'à la fin de l'année, finalement. Le troupeau n'est pas ressorti du mois de fin juin à la fin de l'année, le troupeau a été dedans.
Ouais, ça veut dire que pendant 6-8 mois, tu dois les nourrir.
Voilà, ouais.
Il faut donc, c'est
nourrir
quand même
à l'intérieur avec du stock. Ouais. Ouais, ça, c'est un problème. Ouais.
On te remercie, Didier, de nous avoir reçus sur ton exploitation. On se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, et on sera chez Jérémy et Stéphanie à Lédergue, qui ont des brebis laitières en bio.